27 milliards pour la Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de l'année. Le projet de loi de gestion a été adopté juste avant la chute du gouvernement Barnier. Un texte essentiel pour l'économie calédonienne. Les communes en forte souffrance budgétaire et la situation s'est considérablement aggravée depuis les émeutes. C'est ce qui ressort de l'Observatoire des communes publié aujourd'hui par l'AFD. Des difficultés qui touchent aussi le monde associatif. Le sujet était au cœur des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. La première centrale biogaz du territoire inaugurée ce matin, elle va permettre de valoriser 150 000 tonnes de déchets par an pour produire 8 000 MW d'électricité renouvelable. Et puis jour d'élection à la CCI et selon nos informations, la liste du président sortant David Guyenne devrait rester majoritaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Il n'y a donc plus de gouvernement Barnier. Le Premier ministre a été renversé par l'adoption de la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire. Le texte a réuni les voix de la gauche et celles du Rassemblement National et il a été adopté par une majorité de 331 députés. La France n'a donc plus de Premier ministre, plus de gouvernement et son budget n'est pas voté. Et cela n'arrange pas la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Pas de gouvernement, ça veut dire une nouvelle incertitude, notamment pour le calendrier de reprise des discussions sur l'avenir. Et pas de budget, ça veut dire l'inconnu pour l'année 2025 et notamment sur le prêt de 120 milliards de francs qui devait être accordé par l'État. Mais on a évité le pire, puisque juste avant l'adoption de la motion de censure, les députés ont adopté in extremis la loi de fin de gestion qui concernait la Nouvelle-Calédonie, avec une somme de 27 milliards qui doit garantir le financement des provinces et des communes, le fonctionnement du ROAM, la pérennité du régime d'assurance chômage et la stabilité d'Enercal, un projet de loi adopté au tout dernier moment, notamment grâce à l'intervention du député Nicolas Metzdorf.
Heureusement qu'on l'a fait, parce que si elle avait été votée après, comme c'était initialement prévu, elle serait tombée et on n'aurait pas eu les crédits pour finir l'année et puis on aurait été en banqueroute totale. Le bloc central et de droite a voté pour, hein, c'est-à-dire ceux qui composaient la majorité. J'ai eu une discussion avec Marine Le Pen qui a décidé de voter pour et les socialistes qui se sont abstenus. Je suis très surpris du vote, pas de la France insoumise, hein, forcément, mais du groupe communiste qui a voté contre ces crédits.
Le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, membre du groupe communiste à l'Assemblée, n'a pas pris part au vote. Le financement de la fin de l'année est donc assuré, à condition toutefois que les élus du Congrès adoptent la semaine prochaine la délibération modificative numéro 6 du budget de la Nouvelle-Calédonie, qui doit intégrer cette aide de 27 milliards. Mais la chute du gouvernement n'est pas une bonne nouvelle non plus pour les discussions sur l'avenir, c'est ce que souligne le député de la première circonscription.
Évidemment, c'est un coup dur parce que, quand bien même, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, demain, auront un entretien avec les groupes politiques du Congrès en présentiel et à la fois en visio. Ça reste le gouvernement qui est le maître des horloges sur la Nouvelle-Calédonie et Matignon qui a la responsabilité historique ou François-Noël Buffet qui avait pris le dossier à bras-le-corps ne sont plus là. Donc, il va falloir renommer un gouvernement très vite. Je crois que c'est la volonté du président de la République. Si on a un nouveau gouvernement assez rapidement, on va pouvoir, je pense, rebattre un calendrier là aussi assez vite et puis relancer le projet budget pour 2025 parce que si on a réglé les problèmes budgétaires pour 2024, il va rester le soutien pour l'année 2025.
Et ce qui se joue pour l'année 2025, c'est la validation du prêt de 120 milliards de francs, un prêt garanti par l'État.
Je travaille étroitement à mon niveau et avec l'ensemble des parlementaires aussi, avec Emmanuel Moulin, qui est le délégué interministériel dédié à la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les questions budgétaires, pour essayer de trouver une solution. Alors, soit on fait des projets de loi spécifiques d'urgence, mais on n'est pas sûr de pouvoir y intégrer juridiquement les dépenses pour la Nouvelle-Calédonie, soit, comme je le disais, on a un gouvernement qui est renommé très très vite et qui reprend le budget qui est en cours d'étude. Donc, tout ça est encore un peu flou, mais on travaille beaucoup ici pour qu'on puisse offrir des perspectives aux Calédoniens pour 2025. Je désespère pas qu'on trouve une solution rapide.
Une situation tendue donc, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suit bien sûr de près la situation nationale. Il travaille à la recherche de solutions financières pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que nous indique le membre du gouvernement, Christopher Gigès.
On est dans un esprit de travail et de responsabilité comme on l'est depuis le début de la crise. C'est une nouvelle fois une mauvaise nouvelle puisque la garantie de prêt devait s'inscrire dans le projet de loi de finances et comme le gouvernement est tombé, il n'y aura pas de projet de loi de finances pour le moment. Mais on travaille avec nos parlementaires au niveau national et avec la mission État pour trouver les solutions pour faire avancer la Nouvelle-Calédonie et que la Nouvelle-Calédonie ne s'écoule pas. Le député Metzdorf a réussi à faire inscrire à l'Assemblée nationale les 27 milliards qui doivent passer dans le cadre de la DM6. J'espère que les élus du Congrès auront la même responsabilité que les élus de la Assemblée nationale et approuveront cette DM6 le 11 décembre prochain pour qu'on puisse finir l'année et se donner un petit peu d'air le temps que soit qu'on trouve des solutions parce qu'on va en trouver ou soit qu'un nouveau gouvernement se mette en place. Donc c'est un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est au travail pour trouver des solutions pour les Calédoniens.
L'une des échéances c'est donc la fameuse réunion séance publique du Congrès le 11 décembre pour l'adoption de la DM600. Attendons le reste du calendrier. C'est ce soir pour nous, dans une heure, à 19h, que Michel Barnier doit remettre officiellement sa démission au président de la République. Emmanuel Macron doit prendre la parole. Il sera à 6h demain matin pour nous. Le chef de l'État devrait annoncer qu'il a l'intention de nommer un nouveau Premier ministre au plus vite, sous 48 heures, dit-on. Et plusieurs noms circulent, vous le savez, pour Matignon, celui de l'ancien ministre des Outre-mer, actuellement ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mais aussi celui du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou encore celui de François Bayrou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous inquiet de la chute du gouvernement Barnier? Si cela vous inquiète, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 60% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'Emmanuel Macron ne doit pas démissionner en cas de censure du gouvernement Barnier. Ils sont 40% à penser à l'inverse, que le président de la République devrait démissionner. Et puis notez que c'est Emmanuel Djibaou qui sera demain midi votre invité, Elisabeth, dans le magazine Transparence. Une interview qui a été exceptionnellement enregistrée pour tenir compte de l'agenda du député de la seconde circonscription et nouveau président de l'Union calédonienne. Elle n'aborde donc pas la situation nationale. Une interview d'Emmanuel Djibaou qui sera à suivre demain à partir de midi sur RRB. Les communes au bord de la cessation de paiement, c'est le constat répété ce matin à l'occasion de la présentation par l'AFD de l'édition 2024 de l'Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
Les communes face à la crise des émeutes de 2024, c'est le sous-titre cette année de l'Observatoire des communes calédoniennes publié tous les ans par l'Agence française de développement. Cette publication fait le point sur les tendances des finances communales, mais cette année, elle a dû s'adapter pour apporter sa vision sur la situation fragile et mouvante que connaissent les communes calédoniennes. Les impacts des émeutes sur les communes sont considérables, souligne l'AFD, qui relève le recul d'un tiers de leurs premières recettes, le FIP fonctionnement, et des délais allongés dans le reversement des taxes de la part de la Nouvelle-Calédonie. L'AFD souligne aussi la mobilisation des communes pour veiller sur leur population au plus fort de la crise, ainsi que sur leur capacité à s'adapter dans l'urgence à une nouvelle donne. Thomas de Gubernatis, le directeur de l'AFD, résume la situation des communes en cette année 2024.
On avait, fin 2023, des communes qui étaient plutôt en bonne santé, avec une trajectoire qui allait dans le bon sens, une épargne qui s'améliorait, globalement l'investissement qui progressait et en même temps le niveau d'endettement qui diminuait. Puis survient la crise du 13 mai, qui en réalité est une crise qui vient se rajouter aux crises qui étaient déjà latentes sur le secteur du nickel et bien engagée depuis longtemps, ce que je qualifie de crise des finances publiques, avec pas mal de politiques publiques qui ne sont pas financées. Et ça a conduit très rapidement à des manques de trésorerie de la Nouvelle-Calédonie et en cascade des collectivités. Si bien que les collectivités ont eu beaucoup de mal à poursuivre leur action et ont dû faire des arbitrages sur leurs dépenses en matière de cohésion sociale, en soutien aux associations qui assurent des missions de service public, la poursuite du transport scolaire par exemple, qui fait que nombre de jeunes n'ont pas pu poursuivre leur scolarité, la fermeture des cantines alors que des enfants n'ont qu'un seul repas par jour grâce à la cantine. Et puis même, pour dire la gravité de la situation, il y a des communes qui en sont arrivées à réduire leur temps de travail pour réduire leur masse salariale parce qu'ils n'avaient pas la capacité de payer les salaires.
Une situation préoccupante pour les communes calédoniennes et les maires qui assistaient ce matin à la présentation de cet observatoire ne cachent pas leur inquiétude, comme le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
On a beaucoup d'anxiété les uns les autres parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et puis d'autre part, il y a cette étape du congrès la semaine prochaine avec le prêt de 27 milliards dont une bonne partie pourrait venir aux communes et aux provinces puisque nous n'avons pas touché d'argent de la Nouvelle-Calédonie, chacun le sait. Et donc on est suspendu à cette décision et elle prend encore plus d'ampleur aujourd'hui avec la motion de censure qui est passée au niveau de l'État et qui fait que je ne sais pas comment on va faire, mais j'ai essayé de trouver de l'argent pour nous aider l'année prochaine, donc voilà. Mais on ne va pas baisser les bras.
Sonia Lagarde qui parle d'impasse budgétaire pour la commune de Nouméa à partir du mois de février, si elle ne touche rien d'ici la fin de l'année. Elle insiste, vous l'avez entendu, sur la nécessité que les élus du Congrès votent la DMC, ce qui leur sera soumise le 11 décembre. Une inquiétude partagée par Florence Roland, le maire de La Foix et vice-présidente de l'Association française des maires.
On est très inquiet. Normalement, nous devrions déjà être en train de construire nos budgets sur 2025, mais nous ne sommes pas en capacité de pouvoir évaluer les recettes que nous percevrons sur l'année prochaine. Et donc, c'est une réelle catastrophe pour les communes qui s'annoncent. La visibilité aujourd'hui pour les communes du territoire, c'est pas plus de 2 mois. Donc la priorité des priorités, c'est comment on paye nos agents. On marche sur un fil, donc il y a une grosse inquiétude des maires par rapport à ça. Comment on va réussir à payer nos masses salariales, nos salaires. La deuxième des choses, c'est qu'on participe, nous, à l'économie locale de par nos investissements, de par ces entreprises qui travaillent aussi pour les communes.
Et de son côté, l'Agence française de développement fait valoir qu'elle a répondu présente face à la crise en continuant son action de financement des communes et en reportant par ailleurs l'équivalent de leur remboursement en capital de la dette sur 2024 et 2025. L'AFD qui souligne que l'édition 2024 de l'Observatoire des communes a pour objectif d'éclairer les décideurs sur la situation financière à ce jour des communes calédoniennes.
Et le monde associatif aussi rencontre d'importantes difficultés budgétaires. Nous en avons parlé avec nos invités dans les Jeudis de l'économie ce midi. À cette occasion, le coprésident du collectif des associations, Thibaut Bizien, a rappelé que les associations représentaient un vrai poids économique.
Il y a 10 ans, quand le collectif s'est créé, il y a eu une étude qui a été pilotée justement et qui a démontré qu'il y avait plus de 3000 emplois en 2015 qui étaient liés aux associations. Donc ça, ce sont les emplois directs, donc ça reste une très grosse économie. Mais derrière aussi, il y a bien sûr les emplois indirects avec toutes les prestations qui sont commandées lors des événements et lors des activités qui sont menées par ces associations. Et donc ça représente aussi un ruissellement qui est assez conséquent pour la société calédonienne. Et on s'en rend pas toujours compte. Donc il y a des missions d'intérêt général, des missions de service public. Donc il y a un vrai poids socio-économique des associations et elles sont très structurantes pour la société calédonienne.
Cela fait plusieurs années que les associations enregistrent une baisse des subventions publiques, ce qui les oblige à chercher d'autres sources de financement, mais qui les place aussi devant d'importantes difficultés, a expliqué Quentin Rétani, le directeur du chapiteau.
On est beaucoup d'associations qui, depuis 10 ans, essuyons des baisses régulières et parfois drastiques de financement. Donc, pour donner une idée, on est passé au début d'un fonctionnement où il y avait 80% qui étaient conventionnés et 20% à trouver, quoi. Mais alors, quand je dis à trouver, ça peut être des appels à projets ou des choses comme ça. C'est pas forcément que de l'argent privé, ça peut aussi être d'autres sources d'argent public. Mais on est passé de 80-20 à aujourd'hui 50-50, voire même 40-60 parfois. Donc, 40% qui sont subventionnés. Quand je dis ça, ça veut dire que quand on commence l'année, il nous reste 60% du budget à trouver. Et encore, comme ce n'est pas des conventions pluriannuelles, il faut attendre la signature des conventions qui, des fois, et régulièrement, arrivent entre les mois de juin et de novembre. Je suis encore en train de signer des conventions qui concernent 2024 sur des actions qu'on a réalisées sans aucune garantie qu'elles allaient réellement être financées.
Il existe des pistes pour pérenniser le fonctionnement financier des associations, comme par exemple les conventions pluriannuelles qu'ils pourraient signer avec les collectivités et qui leur donneraient de la visibilité. Les associations qui en plus ont subi de plein fouet les émeutes déclenchées le 13 mai et leurs conséquences. Et pourtant, il faut tout faire pour les préserver, a expliqué Christophe Damin, le président du CTOS, car elles ont aujourd'hui, peut-être plus avant qu'encore, un rôle important à jouer, nous a-t-il dit.
Dans le monde associatif, qu'on soit des bénévoles, qu'on soit des salariés, on a un engagement qui est total, on a un investissement, on a tout ça. Et si on est encore là, c'est parce que on croit au rôle et aux missions qui sont celles du mouvement associatif. J'ai eu la chance au niveau professionnel d'intervenir au niveau du plan PS2R. J'ai mis en avant cette idée d'association et je leur ai dit, si on n'agit pas maintenant, le monde associatif va se casser la figure, va disparaître. Pourtant, dans l'idée de reconstruction qu'on a aujourd'hui de tout le monde associatif, c'est le premier qui est déjà sur le terrain. Après, il y a tout ce qui est économique qui aidera pour avoir les financements. Mais si le monde associatif n'est pas présent, la reconstruction prendra beaucoup plus de temps et sera beaucoup plus difficile.
Des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. 19h59, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie et notamment les premières tendances sur les résultats du vote à la CCI.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Hé mon frère, il m'est arrivé une histoire de dingue. J'allais pour déposer mon chèque pour payer mes impôts dans la boîte aux lettres de la pairie. Mon frère, comme dans Harry Potter, la lettre ressortait toute seule.
Ah oui, c'est plus là qu'il faut payer ses impôts. C'est à la direction des services fiscaux, là où tu déposes tes déclarations.
Mais tu savais ? Pourquoi tu m'as pas dit ?
Mais tout le monde le sait, mais il y a encore plus simple. La prochaine fois, tu fais comme moi, tu payes en ligne.
En quoi ?
Sur internet, Madjan, tu vas créer un compte NC Connect, tu t'abonnes aux démarches fiscales en ligne et après tu peux déclarer et payer tes impôts directement.
Ah ! Pas besoin de se déplacer du coup.
Et non.
Pour déclarer et payer ses impôts, c'est à la direction des services fiscaux située au 13 rue de la Somme, à Nouméa, derrière le cinéma ou à l'antenne du gouvernement à Koné. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.impots.nc. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La 6 Info Soir, Jean-François Baudin.
C'était un jour de vote pour le renouvellement des instances de la CCI. Les adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie avaient le choix entre deux listes auxquelles il fallait rajouter une candidature libre. Trois bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 14h. Charles Roger, le directeur général de la CCI, était présent au bureau de vote de Nouméa.
C'est important parce que la CCI, elle est là pour défendre l'ensemble des entreprises calédoniennes et que ses représentants, ses élus qui vont venir pendant 5 ans défendre les intérêts du secteur commerce, service et industrie. Dans le contexte actuel économique, je pense que c'est important de se mobiliser pour justement choisir ses représentants. Je pense que le vote électronique permettra une mobilisation plus importante que ce qu'on a pu observer sur les scrutins précédents. Et traditionnellement, le scrutin à l'urne n'est pas forcément celui qui est le plus utilisé par les électeurs. Les mandatures précédentes, ils avaient plutôt voté par correspondance. Et voilà, le vote physique se déroule très bien aussi depuis ce matin.
Les adhérents avaient jusqu'à 14h pour voter à la mairie de Nouméa, à la mairie de Conné et à la mairie de Lifou. Le dépouillement touche à sa fin. Les résultats seront proclamés demain à 14h à la CCI. Mais selon nos informations, la liste du président sortant David Guyenne arrive en tête dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Les choses sont plus serrées pour le secteur des services. Elle devrait donc disposer vraisemblablement d'une majorité d'élus au sein du nouveau conseil d'administration. Un vote marqué aussi par une forte participation pour ce type de scrutin, puisqu'elle devrait atteindre les 20%. La première centrale biogaz de Nouvelle-Calédonie inaugurée ce matin à Païta. L'objectif de ce projet porté par Enercal et le gouvernement est de contribuer à la transition énergétique et à la réduction des émissions de CO2 sur le territoire, Léana Colombo.
Cette centrale Gadji Energy est la première du genre à voir le jour sur le territoire après un peu plus d'un an de travaux. Et ce n'est pas un hasard si elle a été installée sur le site de l'ISD de Gadji, un lieu où convergent près de 150 000 tonnes de déchets provenant de l'ensemble du territoire. Le principe de cette centrale est simple. Les déchets traités sur le site de Gadji émettent du gaz lors de leur traitement. Et c'est ce gaz qui va être aspiré par la centrale pour être redirigé vers un moteur qui va convertir cette énergie mécanique en électricité. Plus qu'une transition énergétique, ce type de produit s'inscrit dans un plan plus large, celui du PS2R. Le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction du gouvernement, explique Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie.
Le PS2R prévoit la création de nouvelles filières pour la Nouvelle-Calédonie et également une accélération des projets d'énergie renouvelable. Donc typiquement ce projet qui s'inscrit dans une volonté de nouvelles filières d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, plus des capacités à travailler ensemble entre le public, le privé et les autorités coutumières, s'inscrit totalement dans le PS2R et donc de la relance de l'économie calédonienne. On est en capacité d'allier à la fois le traitement des déchets et la création d'énergie, donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et qui s'inscrit pleinement dans le schéma de transition énergétique, où on a vraiment voulu faire du développement des énergies renouvelables une priorité, mais pas que le photovoltaïque, aussi d'autres sources, et donc ce projet s'inscrit dans ce schéma.
Un schéma qui justement mise sur la complémentarité des énergies renouvelables, à la différence des énergies solaires et éoliennes qui permettent de produire de l'électricité lorsque le vent souffle ou lorsque le soleil brille. Le biogaz est produit toute l'année, rappelle Jean-Gabriel Faget, directeur général d'Enercal.
C'est une contribution supplémentaire à la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ça produit 24 heures sur 24, donc notamment la nuit, lorsque les autres énergies renouvelables, notamment photovoltaïques, ne produisent pas. Donc c'est tout à fait complémentaire et une valorisation de déchets, une décarbonation de l'électricité, puisque c'est potentiellement la nuit des combustibles fossiles qui ne sont pas consommés. Donc que du positif pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a évidemment une démarche en amont de sobriété qu'il faut développer en Calédonie. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des déchets. Et donc, plutôt que de perdre, entre guillemets, cette source d'énergie, on la valorise. Donc, c'est totalement vertueux.
Gadji Energy permettra de produire 8000 MW par an d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation de 2400 foyers calédoniens. L'inauguration de la centrale s'est également faite en présence, notamment du membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Adolphe Digué, de la maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, des coutumiers et des partenaires d'Enercal ayant contribué au projet.
La Chambre d'agriculture et de la pêche tire la sonnette d'alarme. Elle craint que les difficultés budgétaires ne fragilisent le monde rural et lance un message aux consommateurs, mais aussi très directement aux élus, Nicolas Legrand.
Oui, il ne faut pas que les coupes budgétaires attendues pour 2025 viennent mettre à mal ce monde de l'agriculture et de la pêche. Elle demande notamment à ce que soient maintenues les dotations aux établissements publics que sont l'OCEF et l'Agence Rurale. Ce matin, la Chambre avait réuni tous les représentants des syndicats professionnels pour porter ce message commun. Écoutez Guy Monvoisin, le président de l'interprofessionnel viande de Nouvelle-Calédonie.
D'abord, de parler un peu aux consommateurs calédoniens et puis de parler au monde politique en général en disant attention, attention à ce que vous faites. On vous rappelle que la résilience du monde agricole ne veut pas dire qu'elle se satisfasse de cette situation. Elle a des projets. Il faut faire attention parce qu'une fois que le monde agricole il régresse, une fois que le monde agricole il a plus le moral, c'est pas bon. Et pour l'instant, il a le moral. On va demander une réunion donc avec le Congrès, avec l'économie rurale. D'abord parce qu'on a des propositions à faire. C'est pas le jour de la complainte, hein. C'est pas le jour où on dit il nous faut de l'argent. C'est de dire nous, on n'a pas besoin d'argent là. On a besoin simplement de soutien dans certains établissements publics qui le font déjà. Il faut continuer. Faites attention parce que ça peut tomber. Quand on commence à affaiblir le monde rural, il met trop de temps pour se refaire. C'est très difficile. Il faut à tout prix que la brousse, elle continue à vivre. C'est important.
Et l'enjeu est de taille hein, en soutenant la production et en mettant l'accent également sur la transformation. L'agriculture et la pêche pourraient permettre la création de 2000 emplois d'ici à 2030. Des emplois partout sur le territoire et qui permettraient donc de remplir plusieurs objectifs. À la fois fixer les populations chez elles et mieux nourrir les Calédoniens. On retrouve Guy Monvoisin.
Souveraineté alimentaire, ça veut dire, attention, c'est pas qu'un mot. Faut l'habiller. Faut habiller la mariée aussi, derrière. Moi, ma crainte un petit peu, c'est qu'on banalise un peu le mot souveraineté alimentaire. On le met un peu à toutes les sauces, mais derrière la souveraineté alimentaire, faut mettre des mecs. Il faut mettre des moyens. Vous voyez, rien que notre circuit, le circuit filière animale, via les boucheries, via l'OCEF, c'est des centaines d'emplois. Des boucheries dans tous les villages, des ateliers de découpe, enfin de tout. C'est partout, ça crée de l'emploi. Pour une filière qui ne coûte pas les yeux de la tête, quoi. C'est pas un gouffre, c'est de l'argent investi.
Et pour valoriser ces produits locaux, la Chambre d'agriculture a misé sur les marchés de proximité en accentuant notamment ces grands rendez-vous, que ce soit en brousse ou sur le Grand Nouméa depuis le 13 mai. Et la Chambre soutient aussi les événements festifs comme le Royal Caledonia Show ce week-end sur l'hippodrome Henri Millard.
Et nous reviendrons sur ces messages de la Chambre d'agriculture et de la pêche demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Cérémonie de fin de formation pour les policiers municipaux à Normandie. Une formation de 12 semaines au cours de laquelle ils ont appris le cadre réglementaire de leur mission, mais aussi des techniques d'intervention. Les cours ont évidemment été adaptés au contexte actuel pour leur permettre de faire face à tout type d'intervention. Écoutez la major de promotion, Laura Rotteri, qui prend ses fonctions d'ici 10 jours à Nouméa.
Mise à l'honneur de la major de promotion, Laura Rotteri. Sortez des rangs et rejoignez votre emplacement.
Ça s'est plutôt bien passé, une bonne cohésion entre ce qu'on était trois communes, donc Mandor, Dimbé, Nouméa. Ça s'est vraiment bien passé, un bon encadrement, une structure au top. On a beaucoup appris, on est arrivé chacun avec nos tempéraments différents, nos façons de faire. Il y en avait certains qui étaient déjà en poste avant. On a tout remis à zéro pour bien réapprendre et partir sur de bonnes bases. Et vraiment une très très bonne formation et au top. Servir, protéger, c'est d'aider la population, de l'accompagner, de la rassurer aussi et d'être là pour tout, pour toutes nos missions.
Et sur les 21 stagiaires qui ont terminé leur formation, 10 seront affectés à la police municipale de Dumbéa, 7 à celle de Nouméa et 4 à celle du Mont-d'Or. 18h09, la dernière pause de ce journal avant de voir les opérations caritatives.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après, ça fait... Ensuite, ça fait... Et là...
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Avec ce beau cadeau de fin d'année pour les associations caritatives, 10 d'entre elles se sont vues en effet remettre ce matin 500 000 francs de dons chacune par le GIE Solutions et Services Calédoniens. Charlotte Coulson.
une somme qu'elles pourront dépenser en produits alimentaires ou d'hygiène. Le GIESSC gère entre autres les cartes déjeuner, ma liste cadeau ou encore les cartes cohésion, et chaque année il fait don des titres périmés aux associations caritatives. En 2023, le groupement d'intérêt économique avait donné un total de 3 500 000 francs. Cette année, la somme est un peu plus élevée, comme l'explique Dominique Lefebvre, président du GIESSC.
Alors, ce sont des cartes comme le principe de la carte déjeuner. Vous allez dans une alimentation, vous pouvez acheter des produits d'alimentation et des produits d'hygiène pour la valeur de 5 000 francs ou 10 000 francs, suivant ce que les associations ont décidé de mettre sur le montant de la carte. Bon, évidemment, on a eu pas mal d'aléas et puis du coup, ça nous permet de donner à plus d'associations parce qu'on a eu plus de titres périmés. On donnait à 7 associations qui sont devenues 6 parce qu'il y en a une qui a disparu, et là, c'est le foyer Bethany. Et donc, on a 4 nouvelles associations en plus.
Et parmi ces nouvelles associations bénéficiaires, l'EPISE, l'épicerie solidaire des étudiants de l'UNC. Cette année, le nombre d'adhérents a bondi et l'aide reçue du GIE est donc très bien reçue. Maëva Territaou est présidente de l'épicerie solidaire.
C'est énorme pour nous, on est vraiment gratifiant de ce geste parce que ça représente beaucoup et ça va beaucoup faire avancer la cause pour laquelle nous luttons, à savoir la précarité pour les étudiants. C'est vrai qu'avec la crise, on a eu moins de dons, mais on a continué à avoir beaucoup d'adhérents. On a doublé le nombre d'adhérents de l'épicerie depuis la crise. Pour l'instant, nous nous dirigerons vers les supermarchés pour aller approvisionner en denrées de première nécessité pour les étudiants. Mais ensuite, on verra en faisant des questionnaires auprès de la communauté étudiante pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement, et après nous prendrons ce qu'ils ont besoin.
Les 10 associations ayant reçu les cartes auront 6 mois pour les utiliser dans le réseau de 350 commerçants partenaires.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et c'est la part du cœur, vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, cette opération au cœur de Noël que nous avons lancée lundi dernier pour solliciter votre générosité et venir à la radio déposer des cadeaux qui seront redistribués aux enfants de familles qui sont aujourd'hui dans la difficulté parce qu'elles ont subi de plein fouet les exactions. Des cadeaux pour les enfants de 0 à 16 ans. Merci de participer activement comme vous le faites depuis lundi parce que nous avons déjà vu passer beaucoup de monde porter des cadeaux à la radio. Merci de votre générosité. Il y en a évidemment besoin dans cette période pour que Noël soit une fête pour tous et notamment pour les enfants. On compte encore sur vous et on vous attend à la radio de 7h30 à 19h tous les jours. Allez, on termine ce journal avec un mot de sport et du basket. Les finales du championnat territorial ont débuté hier soir à la salle Omnisport de Lanzvata. Les premiers matchs perdus pour les deux équipes de Rivière-Salée. En effet, chez les dames, Rivière-Salée s'est inclinée 45 à 80 face au Mont-d'Or. Côté basket masculin, résultat un peu plus serré, 68 à 77 face à l'équipe de Dumbéa. Les finales se disputent au meilleur des trois matchs et le deuxième match est prévu samedi. Ce sera toujours à la salle Omnisport de Lanzvata. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors, quelles sont les prévisions, Nicolas ?
Alors, cette nuit, la dissipation des nuages de l'après-midi se feront lentement, en particulier sur l'est et la pointe sud, où quelques ondées seront attendues. Le vent de sud-est mollira entre 10 et 15 nœuds au début, puis faiblira plus nettement sur l'ouest entre 5 et 10 nœuds de secteur est. Il dépassera encore les 15 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales seront comprises entre 19 et 22 degrés. Elles atteindront, 25 degrés sur le nord. Demain matin, le temps sera souvent bien ensoleillé, même si quelques nuages pourront donner de rares averses sur le nord-est. Sur la pointe nord-est, le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, l'alizé s'établira au secteur sud-est. Il oscillera souvent entre 10 et 15 nœuds, mais atteindra 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest, Jean-François.
Merci beaucoup, Nicolas.